Alors pour cette deuxième rencontre, nous allons ensemble essayer ce matin de réfléchir sur un des maîtres mots des écrits de Saint Jean, et en particulier de l'évangile de Jean, qui est le mot « demeurer ». Demeurer. C'est un mot qui revient 67 fois dans l'évangile et les épîtres de Saint Jean, alors qu'on ne le trouve que 12 fois dans les trois autres évangiles, et 17 fois dans les épîtres de saint Paul. Alors, si l'usage, l'utilisation du mot « demeurer » est important chez saint Jean, c'est parce que ce mot, qui est en grec est « menein », ce mot a un sens tout particulier pour saint Jean. Alors, je vous propose de regarder ensemble le sens de ce mot « demeurer » à deux niveaux ce matin. D'abord, un niveau plus proche du texte de l'Évangile, du texte biblique. Et ensuite, un deuxième niveau qui est un niveau plus spirituel, qui va nous amener à découvrir la personne même de saint Jean. Alors, commençons par ce premier niveau qui est plus proche du texte de l'Évangile, plus exégétique, plus biblique. Comment se comprend le mot « demeurer » ? Alors, je vais ici me référer à notamment un bibliste bien connu qui est décédé il y a quelques années, en 2003, qui est jésuite, qui s'appelle le père Ignace de la Poterie, qui a été enseignant à l'Institut biblique de Rome et qui est un spécialiste de l'exégèse de saint Jean. Alors il nous a laissé notamment une petite étude sur justement le propos de notre réflexion de ce matin, le sens de demeurer dans les écrits de saint Jean. Alors si on suit l'usage, l'utilisation du mot « demeurer » dans l'évangile de Jean, eh bien on va découvrir que c'est une entrée progressive dans une intériorisation. On va passer du « demeurer » extérieur, donc « demeurer en tel lieu », qu'on traduirait par « habiter », « demeurer à tel endroit » ou « demeurer tant de temps », « quelques jours ». Donc vous voyez, une utilisation de « demeurer » liée à un lieu ou à un temps, à un « demeurer » non pas à tel endroit, mais dans. Demeurer dans. On passe de l'extérieur, l'extériorisation, demeurer quelque part, demeurer un moment, à demeurer à l'intérieur, demeurer en nous. Donc, le passage du sens de demeurer de l'extérieur, demeurer géographiquement quelque part, à demeurer d'une façon beaucoup plus intérieure. L'Esprit Saint, à travers Jean, veut nous faire entrer dans un chemin d'intériorité. Et on va le voir, on va le découvrir ensemble ce matin. Passer du « eux, où demeures-tu ?»« Où demeures-tu ?» à « demeurer dans ». Alors voyons ce chemin, et en fait, celui de toute vie spirituelle. C'est ça l'intérêt de ce sujet de ce matin. C'est qu'on va découvrir que cette progression de demeurer quelque part à demeurer en nous, c'est le chemin de toute vie spirituelle, de toute croissance spirituelle. Donc c'est intéressant de regarder ce thème par rapport à notre propre cheminement spirituel. La première fois qu'on trouve le mot « demeurer » dans l'évangile de Jean, c'est en Jean 1, 32. Lorsque Jean-Baptiste témoigne, « J'ai vu l'Esprit, tel une colombe, descendre du ciel et demeurer sur lui. » Voilà la première fois qu'apparaît « demeurer » dans l'évangile de Jean. Alors vous voyez, c'est toujours ici « demeurer » du fait d'une séparation extérieure, demeurer sur lui. Vous voyez, donc c'est une localisation, demeurer sur lui. Plus loin, après le dialogue avec la Samaritaine, Jésus demeure chez eux deux jours, donc habite. Donc c'est encore une référence à un lieu, vous voyez, à une référence extérieure. Jésus habite chez eux deux jours. À noter que toutes les fois où dans les autres évangiles est utilisé le mot « demeurer », c'est toujours dans ce sens d'habiter, ce sens extérieur, soit local, soit temporel. Comme par exemple en Luc 1, 56, Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Vous voyez, Marie habita chez Élisabeth environ 3 mois. Et c'est le verbe demeurer qui est utilisé. Mais on va regarder plus précisément le premier dialogue entre Jean et Jésus. La première rencontre entre Jean et Jésus. Elle est très importante. C'est le premier chapitre de l'évangile de Jean, versets 35-39. Je lis. Le lendemain, de nouveau, Jean, le Baptiste, se tenait là avec deux de ses disciples. Et regardant Jésus qui passait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Et les deux disciples entendirent parler et ils suivirent Jésus. Mais se retournant et les voyant qui le suivaient, Jésus leur dit « Que cherchez-vous ? » Ils lui dirent « Rabbi, mot qui veut dire maître, où demeures-tu ? » Il leur dit « Venez et vous verrez ». Ils vinrent donc et virent où il demeurait, et ils demeurèrent chez lui ce jour-là, c'était environ la 6e heure. Jean-Baptiste annonce prophétiquement le Christ dans son mystère pascal comme agneau. Et deux de ses disciples, Jean et André, laissent leur maître, Jean-Baptiste, qu'ils suivaient jusque-là, pour suivre et écouter Jésus. Alors, le père Marie de Philippe, notre fondateur, aimait nous dire souvent et nous répéter que, et je pense que ça s'adresse à chacun de nous, que on découvre toujours Jésus par un Jean-Baptiste. Quelqu'un qui nous montre Jésus. Un témoin. Quelqu'un par qui Jésus est passé pour nous conduire à lui. Alors, ça serait intéressant, vous voyez, dans notre vie, de nous demander, chacun de nous, qui a été notre Jean-Baptiste. Qui nous a conduits vers Jésus? Alors, on pourrait dire nos parents, si nous avons une éducation au départ chrétienne, mais peut-être quelqu'un, une rencontre, vous voyez, quelqu'un qu'on a rencontré, suivi, et qui nous a fait davantage entrer à la suite de Jésus, dans l'intimité de Jésus. On ne rencontre pas le Christ, généralement, en direct. Vous voyez, comme on rencontre son voisin de palier à la sortie de son appartement. Vous voyez, on rencontre le Christ à travers quelqu'un, et de toute façon, à travers l'Église. Vous voyez, d'où le rôle des témoins. Jean-Baptiste est un témoin. Quand Jésus débute sa vie apostolique, il a beaucoup de disciples qui le suivent. Mais tout au début, ce passage que l'on vient d'écouter nous montre que Jésus remarque particulièrement Jean et André qui le suivent. Parce qu'ils ont laissé Jean-Baptiste et maintenant ils suivent Jésus. Alors Jésus veut connaître le désir des deux disciples de Jean-Baptiste et leur pose la question, que cherchez-vous? Oui, la question n'est pas qui cherchez-vous, mais que cherchez-vous? Et c'est sans doute pour nous montrer qu'il s'agit là d'une vocation. Qu'est-ce qu'au fond de mon cœur j'ai comme désir, comme intention? Qu'est-ce que je cherche? Que cherchez-vous? C'est une question qui nous renvoie à notre intériorité. Que voulez-vous? Que désirez-vous vivre? Et les deux disciples, ou du moins un des deux, on ne sait pas lequel, mais je pense que si c'était André, Jean aurait eu l'idée de dire tout simplement « André répondit ». Mais il dit, c'est écrit, les deux disciples répondirent. Ils répondirent quoi? Maître, où demeures-tu? Où demeures-tu? Alors, qu'est-ce que veut dire Jean et André ici? Est-ce qu'ils veulent savoir où Jésus habite? Jean-Baptiste habitait dans le désert, sur le bord du Jourdain. Et pour retrouver Jésus, pour être proche de lui, ils veulent savoir où Jésus habite. Alors, est-ce que c'est cette question ou est-ce que c'est une question plus profonde? Mais si on regarde de près le texte, spécialement dans sa traduction en latin, dans la Vulgate, au début, la première traduction latine a traduit « où demeures-tu » qui est en grec à l'origine, par « où habites-tu ». Et la nouvelle traduction latine, donc corrigeant la première, a transformé « où habites-tu » par « où demeures-tu ». Pour montrer que là, il y a quelque chose peut-être de plus profond que « où habites-tu ». Et le deuxième indice qui nous permet de peut-être aller dans ce sens-là, c'est la réponse même de Jésus.
Venez et vous verrez. » Jésus répond pas en disant « J'habite à tel endroit. » Jésus dit « Venez et vous verrez. » Ce qui implique donc une suite, un cheminement, un chemin pour demeurer auprès de Jésus. « Venez, vous verrez », ça veut dire « Restez avec moi. » Prenez le temps d'être avec moi et vous verrez. Vous voyez, on passe d'une extériorisation de demeurer, habiter quelque part, à une intériorisation. Venez, suivez-moi et vous verrez. Alors on est passé donc de ce premier sens de demeurer, habiter dans un lieu, à un moment, à un sens et une question nouvelle pour nous. Quelle est pour Jean la véritable demeure de Jésus? Où est-ce que Jésus demeure? Et ça sera la grande recherche de Jean, dans tout son évangile. Où est la demeure de Jésus? Alors, un ami de Saint Bernard, qui s'appelle Guillaume de Saint-Thierry, dit « Ô vérité, réponds, je t'en prie, maître, où demeures-tu ? Viens, dit-il, et vois. Ne crois-tu pas que moi je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Grâce à toi, Seigneur, ton lieu, nous l'avons trouvé. Ton lieu, c'est le Père. Et le lieu de ton Père, c'est toi. Tu es le lieu du Père. » Vous voyez, Jésus lui-même, plus tard, va le dire. « Je vais au Père. » Jean 14, 12. C'est donc là son vrai lieu. Et pour les disciples également, il avait déjà expliqué « Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. » Mais puisque les disciples de Jésus doivent demeurer auprès de lui, pour eux, il s'agira en définitive d'être avec Jésus et comme Jésus, pour entrer dans un chemin qui est un chemin de filiation. C'est le Fils qui demeure auprès de son Père. Jésus est le chemin par lequel il nous est possible d'aller vers le Père, d'être unis au Père. Et c'est ça notre vie chrétienne finalement. Où est-ce que nous demeurons ? Nous demeurons dans le Père, par Jésus, Fils du Père, Fils bien-aimé du Père. Alors on est là dans le secret, le cœur même de l'évangile de Jean. Jean, en suivant Jésus, en écoutant Jésus, en voyant Jésus, a découvert la demeure de Jésus et sa propre demeure, qui est être auprès du Père, être avec le Père, être dans le Père. Vous voyez, il n'y a pas d'intériorité plus grande que celle-là. Ce mystère même de la Trinité, le lien entre le Fils et le Père, c'est là où Jésus, où Jean, veut nous introduire. Alors, si on a compris ce lien entre le Fils et le Père, on va pouvoir comprendre mieux ce chapitre 15, qui est le texte pour ceux qui sont inscrits, qu'ils ont reçu déjà, ce chapitre 15 qui nous montre le lien entre le Père, le Fils et nous. « Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. De même que le sarment, s'il ne demeure sur la vigne, ne peut de lui-même porter du fruit, ainsi vous non plus si vous ne demeurez en moi. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez du fruit en abondance et que vous soyez pour moi des disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez, demeurez dans mon amour. Si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme en observant les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui donne sa vie pour ceux qui l'aiment. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, demeure. Si bien que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Voilà quelques versets du texte que vous avez. Vous voyez, on est entré dans une relation de vie, une relation d'amour qui a une fécondité. porter du fruit. Il y a le Père qui est le vigneron, Jésus qui est la vigne, et nous les sarments. Et la sève qui nous lie les uns aux autres, à la vigne, c'est l'amour. C'est l'Esprit Saint. C'est l'amour qui circule du Père pour sa vigne, pour le Fils. Et c'est de ce même amour que nous vivons comme sarments, si nous sommes attachés à la vigne. Vous voyez, le sarment attaché à la vigne est lié au vigneron. Nous sommes attachés au Fils, et par le Fils, nous sommes fils du Père. Et tout cela, c'est dans l'amour. L'amour que nous partageons ensemble, qui est l'amour de Dieu, ce qui s'appelle la charité fraternelle, l'amour fraternel. Alors finalement, est-ce que la réponse, c'est pas demeurer dans mon amour? Demeurer dans mon amour. Vous voyez, où demeures-tu? Dans l'amour du Père. Et c'est ça ce que Jean va voir. Venez et voyez. Ce que Jean va voir en suivant Jésus. Et lui-même va rentrer dans cet amour. Demeurer dans cet amour qui lie le Père au Fils, le Fils au Père. Alors, voyons à ce deuxième niveau maintenant, justement, c'est une bonne transition, ce que le verbe « demeurer » a de plus spécifique pour la personne de Jean. Et c'est très beau de voir que tout l'évangile de Jean, si vous faites attention, est entre deux rencontres. De Jean avec Jésus. La première, on vient de la lire, c'est la vocation. Maître, où demeures-tu? Venez et voyez. Et tout à la fin de l'évangile, le chapitre 21, le dernier, il y a à nouveau une rencontre de Jésus avec Jean. Et dans ces deux rencontres, le mot central, c'est demeurer. Comme si tout l'évangile, tout ce que nous révèle l'Esprit Saint à travers Jean, dans ces pages de l'évangile de Jean, était autour de demeurer. Alors, la fin de cet évangile nous montre une rencontre particulière qui est, au chapitre 21, la rencontre de Jésus avec ses disciples au bord du lac. Vous aurez un enseignement dessus. Il est ressuscité, il y a une pêche miraculeuse, il prépare un petit déjeuner à ses disciples. Et puis, parmi ses disciples, il y a Pierre. Et trois fois, Jésus va demander à Pierre, « Est-ce que tu m'aimes ?» Pas « Est-ce que tu crois en moi ?» mais « Est-ce que tu m'aimes ?» Vous voyez, l'amour. « Est-ce que tu m'aimes ?» Une fois, deux fois. Troisième fois, ça devient tellement insistant que Pierre se révolte un peu. « Mais tu sais bien, Seigneur, que je t'aime. » Jésus va même lui demander, « Est-ce que tu m'aimes plus que les autres ?» Ce qui est embarrassant comme question. « Est-ce que tu m'aimes plus que les autres ?» Ça veut dire, est-ce que tu m'aimes de façon très particulière? Et Pierre va dire oui, oui, oui. Et à chaque fois, à chaque oui, Jésus va dire sois le pasteur de mes brebis, sois le berger de mes brebis. Et Jean est là, à côté. Pierre a observé Jean. Ils ont, pendant 3 ans, cheminé ensemble auprès de Jésus. Et Pierre se retourne, il voit Jean. Et pose la question à Jésus et lui. Vous voyez, le bon berger, le pasteur, commence à s'occuper de ses brebis. Il y a une brebis qui est Jean et lui. Vous voyez, c'est très beau de voir que Pierre demande à Jésus quel est son regard de Jésus sur Jean. Pour savoir quelle est la vocation de Jean, quelle est la place de Jean. Parce que Pierre a vu qu'il avait une place particulière. Lors de la dernière scène, il était tout proche du cœur de Jésus. Reposé sur sa poitrine, et c'est comme ça qu'il a entendu Jésus murmurer à la question « Qui est celui qui va te trahir ?» Bien, c'est celui qui va prendre la bouche et celui qui va le premier boire, manger. Ça a été dit tout bas à Jean. Et c'est Pierre qui avait posé la question à Jean, et Jean qui demande à Jésus, mais comme un petit secret, parce qu'il ne va pas dire ça haut et fort devant tous les disciples. Vous voyez, Pierre se demande quelle est la vocation de Jean. Il pose la question à Jésus. Et Jésus va lui répondre « S'il plaît à moi, qu'il demeure. » Voilà. « Toi, que t'importe, toi, suis-moi. » S'il me plaît, en parlant de Jean, qu'il demeure. Oui, encore demeure. Alors ça veut dire quoi demeurer? Quelle est la vocation de Jean? Vous voyez, demeurer, demeurer, maître, où demeures-tu? Et tout à la fin, Jésus qui dit à Jean, s'il me plaît, s'il plaît à moi, qu'il demeure. Ça veut dire quoi demeurer? Ça veut dire être témoin, comme Jean l'a été auprès de Jésus, être témoin de l'amour de Jésus pour son Père et du Père pour Jésus et par Jésus pour tous les hommes. Témoin de l'amour. Demeurer, ça veut dire vivre de cet amour toujours et témoigner de cet amour. Jean devient le témoin qui demeure, témoin de l'intimité du Christ avec son Père, témoin de la trahison de Judas lors de la dernière scène, témoin de l'agneau comme seul disciple au pied de la croix à côté de Marie. Témoin avec Pierre de la résurrection. Révélateur des signes de la présence du ressuscité pour Pierre et les apôtres. Quand Jean va dire dans la barque à Pierre, c'est le Seigneur. Il le dit, et tout le monde à ce moment-là, personne n'avait reconnu, et Pierre même se jette à l'eau. Enfin, c'est Jean, c'est le Seigneur. Témoin du ressuscité. Témoin des secrets gardés dans le cœur de Marie. Marie, mère de Jésus, est sa mère. Voici ta mère. Marie qui l'a pris chez lui jusqu'à l'Assomption. Témoin. Témoin de l'amour de Dieu. Témoin de l'amour du Père. Témoin de l'amour du Fils pour nous. Il est le témoin qui demeure en tous ceux qui, sous le souffle de l'Esprit-Saint, demeurent comme des sarments unis à la vigne. Et qui, par leur amour, font la joie et la gloire du Père. Jean est le témoin qui nous montre comment demeurer dans la parole et dans l'amour du Père. Comment demeurer dans le Christ et en Dieu, par une vie spirituelle qui a grandi, passant de l'extériorité à l'intériorité. Bien sûr que demeurer, ça va impliquer toujours dans notre vie une persévérance, une fidélité, une coopération et même une obéissance. Jésus, dans le texte de Jean 15 que vous avez, que l'on va regarder tout de suite, nous parle de commandements observés pour demeurer en lui. Mais demeurer, il me semble que c'est avant tout une grâce à demander, une grâce à accueillir, et une grâce à vivre. C'est une grâce d'amour, d'amitié avec Jésus, comme celle que Jean a eue. Jean se dit le disciple que Jésus aimait, le disciple bien-aimé. Et ça, c'est quoi? C'est la ferveur de l'amour. C'est un premier amour qui se renouvelle. On verra peut-être une prochaine année l'Apocalypse. Au début de l'Apocalypse, il y a Jésus qui fait des reproches aux églises, aux sept églises. Et la première, c'est l'église d'Éphèse, l'église de Marie, l'église de Jean. Et Jésus reproche à cette église qu'elle a perdu la ferveur de son premier amour.